Alors, aujourd'hui, en fait, on va parler avec toi un petit peu de content marketing, on va parler de stratégie marketing, etc., etc. Est-ce que tu peux te présenter déjà en quelques mots?
Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Stéphane Truffem. Je me considère comme une sorte de pure player là, du digital, du marketing digital, puisque j'ai commencé ma carrière aux alentours de 97-98. Donc, suite à mes études que j'ai effectuées à Aix-en-Provence, études d'économie, je suis parti au Canada et c'est là où j'ai découvert Internet. Donc, j'ai plongé tête première dedans. Et puis, quand je suis rentré en France, je me suis aperçu qu'il y avait déjà un large retard des entreprises françaises en la matière. Et du coup, je me suis dit, j'avais l'envie d'entreprendre, donc je me suis dit, allier cette envie d'entreprendre avec cette passion naissante pour Internet. Et j'ai accompagné des premiers clients sur des dimensions de contenu. Alors, ce n'était pas encore du content marketing, mais bon, c'était les prémices.
Bah, d'ailleurs, justement, tu as écrit un bouquin sur l'inbound marketing. Comme tu l'as dit, au début, c'était quelque chose qui était un petit peu confidentiel. Les marques, en fait, n'étaient pas trop habituées à ça. Et ça a complètement explosé depuis, on va dire, 3-4 ans. Ouais. Est-ce que tu peux l'expliquer un petit peu pourquoi c'était un succès? Comment on s'y prend? Est-ce que écrire du contenu, ça suffit, etc.?
Ouais. Alors, l'inbound marketing, effectivement, a commencé à exploser, là, je dirais, il y a 2 ans, en fait. Hein, donc, c'était un peu concomitant la sortie de mon bouquin. Je n'ai pas fait exprès. Hein, c'est juste un bon time to market pour mon ouvrage. Mais dans tous les cas, effectivement, moi, j'en parlais depuis déjà quelques années. Les gens trouvaient ça intéressant, mais il n'y avait pas véritablement de résonance. Je me l'explique par un manque de maturité digitale. Et puis aussi parce que les anciennes pratiques continuer malgré tout à fonctionner.
Il n'y avait pas les réseaux sociaux comme on le connaissait, il n'y avait pas Facebook, Twitter qui étaient aussi puissants. Maintenant, les gens se rendent compte qu'avec quelques vidéos virales, du contenu, tu arrives à générer des prospects.
Tout à fait. Et puis, on arrive malgré tout aujourd'hui à des pratiques outbound marketing qui ne fonctionnent plus, qui se sont complètement épuisées. Et donc, il faut chercher des vecteurs de croissance ailleurs. Et l'inbound marketing représente à la fois, je dirais, une philosophie, une méthodologie et des outils très très intéressants et qui permettent de finalement s'engager sur cette voie de la transformation digitale de manière efficace et relativement simple. Alors quand je parle de philosophie, c'est déjà se dire finalement qu'est-ce que je peux créer comme valeur auprès de mon client. J'arrête de partir à la chasse. Il va falloir que je les attire. Maintenant, pour les attirer, forcément, il faut être séduisant, donc il faut créer de la valeur. Et il ne faut pas considérer que son produit est suffisant pour créer cette valeur. Il va falloir transcender son produit pour proposer quelque chose qui va intéresser. Un Red Bull, par exemple, va proposer énormément de contenu autour d'exploits sportifs, etc. D'ailleurs, assez symptomatique, on va sur le site de Red Bull, on ne voit pas une canette de leur boisson, on ne voit que du contenu. Donc on voit bien une entreprise qui s'est inscrite dans une démarche de création de valeur qui est adaptée à sa cible, bien évidemment. Donc ça, c'est la philosophie de l'inbound. Qu'est-ce que je peux finalement créer comme valeur? Et très souvent, cette valeur va être véhiculée par du content marketing au sens très large du terme. Ça peut être du podcast, ce qu'on est en train de faire actuellement, de la vidéo, de l'infographie, de l'image, bien évidemment de l'écrit, voire même du bouquin tout à fait traditionnel. Ça peut rentrer dans la brique inbound marketing sans aucun souci.
Ouais, parce que justement, ça permet de créer un événement, le bouquin, par rapport à un article de blog qui est assez classique, un livre blanc, un contenu, un web séminaire. C'est le truc qui fait que les gens vont dire « Allez hop, j'y assiste, allez hop, je passe à l'action ».
Bien sûr, oui. Et puis le bouquin, ça va être le temps long. On va retrouver aussi une forme finalement de respiration. Et puis généralement, le bouquin va permettre d'avoir une vue assez exhaustive sur un sujet. Hein. Vous achetez le bouquin de Growth Hacking. A priori, quand vous avez tourné la dernière page, vous êtes un pro du Growth Hacking. Pareil pour l'inbound marketing. Donc voilà, chose que quand on commence à suivre des articles de blog, c'est quand même plus morcelé, donc c'est pas
toujours... Je suis d'accord avec toi, parce que tu vois, moi j'écoute beaucoup de bouquins en version audio avec le Audible, le service d'Amazon, ouais. Et je me rends compte en fait que je dois écouter le bouquin au moins 2-3 fois minimum pour vraiment comprendre le truc. C'est comme si quand on regarde une vidéo, quand on lit un article de blog, souvent on lit un petit peu en travers. Si on prend pas des notes, si on prend pas des actions derrière, c'est pas suffisant. Ouais. Le bouquin, Moi, quand je lis un bouquin papier, tu vois, je prends des notes, je me dis, tiens, je peux faire ci. Il y a un temps de réflexion, je pense, d'assimilation.
Qui c'est ce que j'appelle le temps long. Donc, c'est vrai qu'on on prend le temps, pour le coup, d'aller creuser un sujet en profondeur.
Bah, le podcast aussi, d'ailleurs, je pense, c'est un petit peu dans ce sujet-là, parce que quand tu es dans les oreilles d'une personne qui est dans les transports, comme ça, vous êtes sans doute le cas actuellement, vous prenez le temps de nous écouter et ça vous fait réfléchir un peu. Vous pouvez pas, enfin, si vous pouvez passer un peu, passer en accéléré, mais c'est pas aussi simple que de passer un article de blog, on dit stop, ou une vidéo et hop.
Voilà. Ouais, et puis très souvent, un article de blog, on va lire que un ou deux paragraphes, alors que le podcast, on peut l'écouter. Et je fais quelques podcasts qui sont souvent d'ailleurs très très longs, hein, c'est plus de 30 minutes. Malgré tout, ils sont écoutés de bout en bout, hein, donc ça montre que les gens prennent le temps. Encore faut-il là aussi que le contenu soit de qualité pour intéresser. Donc ça, c'est la première dimension que j'attribue à l'inbound marketing. La deuxième, c'est la méthodologie. Et là, c'est très simple, hein, c'est une méthodologie en quatre étapes. Donc attirer, convertir, conclure et enchanter. Premier objectif, c'est attirer de l'audience, créer de l'audience, attirer du trafic sur son dispositif internet, son blog, ses landing pages, son site internet, ses médias sociaux, etc. Donc là, on va chercher bien évidemment à articuler notamment du content marketing, du référencement naturel, bien utiliser la force des médias sociaux pour promouvoir son contenu et créer cette fameuse visibilité. Deuxième étape, ça va être convertir. Faire de l'audience, à moins d'être un éditeur pur et dur qui revend de la publicité, faire l'audience pour l'audience, pour une boîte, ça ne sert pas à grand-chose.
Bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai eu une sanction de Google, moi, en début d'année. C'est mes vieux articles qui étaient bien référencés, qui ont été déréférencés, bien positionnés. Et je me suis retrouvé avec une baisse de trafic importante. Et pourtant, je génère autant de prospects, je fais autant de ventes, voire plus de chiffre d'affaires, parce que j'ai travaillé sur la conversion.
Bah, tout à fait. À la limite, un très bon trafic très qualifié va être plus productif qu'un large trafic peu qualifié. Donc deuxième étage de la fusée, la conversion. Donc là, on va utiliser ce que j'appelle dans mon jargon le contenu premium, un contenu suffisamment intéressant pour que vos cibles acceptent de les télécharger, de les acheter en échange de leurs données personnelles. Donc c'est quasi un acte d'achat. Bien évidemment, on ne va pas mettre son numéro de carte bleue, mais malgré tout, on donne ses données personnelles.
La valeur en échange de la valeur.
Voilà, tout à fait. Donc c'est pour ça que je tiens sur cette notion d'achat. On va acheter un livre blanc en échange de ses données personnelles. On n'est pas complètement stupide. On sait que si on a laissé son nom, son prénom, son numéro de téléphone et son adresse mail, c'est bien qu'on va rentrer dans une démarche commerciale. Donc il y a une acceptation aussi un peu tacite d'une démarche future. Donc ça, c'est la conversion. Là, il y a énormément d'outils pour aller optimiser ces taux de conversion et faire ce qu'on appelle du CRO, notamment. Ensuite, donc, troisième étape, ça va être faire en sorte que cette masse de leads devienne des clients. Et donc là, on est effectivement dans la conclusion de la vente. Donc là aussi, des outils type marketing qui va aider au rapprochement entre les marketeurs et les commerciaux pour éviter que trop de leads ne soient pas suivis ou mal suivis. Des techniques également à base de content marketing pour aller finalement nurturer.
Réchauffer, un témoignage client, une checklist, un outil ROI, un offre d'essai, une promo, un machin, enfin bref.
Tout à fait. Et puis l'idée aussi de faire mûrir le client dans son parcours d'achat, donc de ne pas l'agresser une fois qu'il est venu, s'inscrire à un événement ou télécharger un livre blanc. Il n'est peut-être pas encore forcément suffisamment mûr pour accepter un discours purement commercial. Ouais. Donc là, c'est encore rôle du marketeur de le qualifier et on va le qualifier grâce à du contenu et notamment avec des outils aussi de marketing automation qui vont justement pouvoir distribuer automatiquement les bons contenus à la bonne personne en fonction de ses centres d'intérêt et donc au bon moment. Et puis enfin enchanter, donc une fois que le client a signé, là aussi utiliser la force du contenu pour tenter de lui offrir l'expérience la plus positive de son acte d'achat. Donc
un
logiciel, on va grâce au contenu l'aider à prendre en main ce logiciel, à en faire
le faire participer en disant choisissez la charte graphique, le nom, le logo, le design, le bidule, pour en fait le rendre un petit peu propriétaire de son
tout à fait, avec l'idée
qu'au final, il ait une expérience très positive de notre offre et qu'il devienne, à son tour, ambassadeur de notre marque.
D'accord. Alors là, on a fait un petit point sur l'inbound marketing. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment on va mettre en place une stratégie ? Parce que je sais que tu n'aimes pas trop les trucs et astuces. Tu préfères en fait que les gens soient plutôt dans la méthodologie et parce que ouais. Les trucs et astuces, ça s'épuise. Et commencer avec la réflexion en tête. Alors, dis-moi un petit peu ce que tu en
penses. Sur les trucs et astuces, ce n'est pas tant que ça s'épuise, c'est surtout que ça induit un peu une idée que finalement, grâce à quelques petits hacks ou quelques astuces, on va pouvoir générer beaucoup, beaucoup de leads. Or, en fait, c'est absolument faux. Ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de temps, d'effort, avant de pouvoir véritablement générer des leads. Ensuite, il va y avoir bien évidemment des hacks, des astuces qui vont permettre de capitaliser, d'accélérer cette démarche. Mais si on n'a pas les fondements, vous pouvez rajouter tous les hacks, toutes les astuces que vous voulez, vous ne monterez jamais votre
stratégie. On aura peut-être votre pic stratégie. Une fois, mais après, donc, ça va retomber dans le long terme, c'est pas le succès.
Voilà, tout à fait. Donc, je dirais que pour démarrer une stratégie de marketing, moi, je préconise d'y aller par pilote. Ouais. Donc, faire quelque chose de très précis sur une offre, à la limite d'embarquer un ou deux commerciaux de son organisation, travailler avec eux, et puis monter ses personas, monter quelques contenus pour attirer, quelques contenus, voire un contenu si possible, plusieurs pour convertir, et puis ensuite tenter avec les commerciaux de bien nurturer les premiers leads et de démontrer que la démarche fonctionne, et puis progressivement de l'étendre, d'en parler, de communiquer, de démontrer au sein de son entreprise, d'aller aussi finalement coacher ses dirigeants en disant vous voyez que
ça marche, qu'un
article de blog peut in fine créer du chiffre d'affaires, c'est pas évident comme concept, se dire je vais écrire et puis ça va me générer des ventes, pas évident à le comprendre. Donc il faut faire preuve à la fois de patience et de pédagogie.
Après, tu avais une deuxième bonne pratique qui était essayer de think different, penser différemment et pas essayer de copier les concurrents.
Voilà. Alors après, ce que je vois malheureusement trop souvent auprès de mes clients qui démarrent dans ces approches de content marketing et d'inbound marketing, c'est qu'elles se contentent finalement de regarder ce que font la concurrence et de copier.
Ils ont dit regarde, il y a machin qui a fait un blog ou qui a fait un article, qui a fait une vidéo, je veux la même.
Voilà, c'est un peu ça. Et du coup, on produit du sous-contenu ou du contenu qui a déjà été produit par ailleurs. Et donc, on limite drastiquement ces résultats. Donc, ce que je préconise de faire, c'est plutôt finalement d'aller voir des entreprises, des startups, des entreprises aussi dans la tech qui sont souvent très avancées sur ces sujets de content marketing, d'inbound marketing, et de s'inspirer de leurs pratiques. Alors même si ce n'est pas du tout dans notre environnement, c'est plus la pratique qui est intéressante. Ensuite, il va falloir adapter bien évidemment les contenus par rapport à son audience, à ses cibles et à son marché.
D'accord. Alors, il y a un challenge, je crois, que tu rappelles tout le temps, c'est la création de contenu.
Ouais.
On a une stratégie d'inbound marketing ou de content marketing. Est-ce que toi, tu peux nous donner quelques bonnes pratiques également là-dessus ?
Ouais. Alors, premièrement, on va démarrer de ses personas. Je ne vais pas trop insister là-dessus parce qu'il y a énormément de littérature. Après, deuxième enjeu, c'est véritablement, finalement, de créer du contenu pour chacun. Pour chacune des étapes du parcours d'achat, de décision de ces cibles. Trop souvent, on a encore tendance à faire du contenu qui va être réservé à des gens qui sont déjà en évaluation, voire en décision, et on oublie finalement tous les contenus qui vont s'adresser à des gens qui sont extrêmement peu mûrs dans leur prise de décision.
Moi, je le voyais dans mon secteur, c'était dans le CRM par exemple. J'avais toujours des articles sur qu'est-ce que le CRM, définition du CRM ou comment améliorer l'efficacité de mes commerciaux. Je suis nouveau directeur commercial ou directeur marketing, comment je fais, quelle est ma prise de poste. Et là, on est un peu en amont du CRM. On n'est pas dans la liste des meilleurs logiciels de CRM, mais on est vraiment dans
l'éducation. Voilà, tout à fait. On est vraiment au démarrage d'un parcours d'achat. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir aussi créer une audience, attirer du trafic sur son site internet et faire en sorte de progressivement maturer entre guillemets ce trafic jusqu'à ce que ça devienne des leads et in fine des clients.
Alors, là, on a vu la partie « j'attire du monde ». Tu nous as parlé tout à l'heure de l'importance aussi de la conversion. Tu peux nous en dire quelques petits mots, quoi ?
Oui, alors la conversion, absolument essentielle. Donc, encore une fois, je vous répète, créer de l'audience pour de l'audience, ça ne sert pas à grand chose. Je dirais que la data et le taux de conversion doivent être finalement des indicateurs absolument essentiels que les marketeurs doivent quasi surveiller quotidiennement. Et là, on peut articuler énormément d'outils, je pense notamment à l'A/B testing, pour aller finalement surveiller quels sont les taux de conversion qui convertissent le mieux, tester des nouvelles variantes. Est-ce que ça va être un simple lien textuel? Est-ce que ça va être un bouton de couleur? Est-ce que ça va être une bannière, etc.
Je suis 200% d'accord avec toi, parce que moi, je vois, il y a plein de gens qui ont des solutions d'emailing, de marketing automation, mais ils ne font jamais de split testing de 1, 2, 3 objets. Les expéditeurs, là, je vais faire un test il n'y a pas longtemps sur les expéditeurs, et une expéditrice marche mieux qu'un expéditeur. J'avais fait des tests sur les offres. Alors, les offres, c'est plus compliqué, je trouve, parce qu'en fait, j'avais essayé de faire une offre 1 euro contre une offre et c'est gratuit, c'est pas forcément évident. Et ça, c'est rien que de l'email, mais les formulaires sur ton site web, j'ai eu quasiment 40% de différence entre un formulaire avec une personne et un formulaire avec juste un objet qui était présenté. Bien sûr, les landing pages, qui sont, et en plus, il y a plein d'outils gratuits. Tu as parlé d'outils d'A-B testing, A-B testing, Optimizely, etc. Mais il y a Google Analytics,
bien sûr,
qui permet de le faire gratuitement. Même avec Thrive Team, qui est un petit outil, on peut même tout simplement tester deux titres d'articles de blog et voir celui qui marche.
Ouais, tout à fait. C'est absolument capital. Et je dirais que même c'est plus intéressant de quelque part diminuer son budget content marketing pour réallouer une petite tranche sur cette dimension, taux de conversion, optimisation du taux de conversion, ce qu'on appelle le CRO. C'est à partir de là où on va commencer à rentrer dans des logiques d'optimisation et finalement de retour sur investissement qui sont des logiques absolument indispensables et intéressantes.
Alors là, on a parlé un peu d'inbound marketing, c'était donc ton livre que tu as écrit il y a un peu moins de 2 ans. Tu as également écrit un dernier bouquin, c'est la boîte à outils marketing que tu as coécrit avec Philippe Gasteau.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu quelques mots?
Ouais, la boîte à outils, donc effectivement inbound marketing en 2016. Ensuite, en octobre 2017, la boîte à outils du marketing digital, donc avec Philippe, coécrit avec Philippe Gasteau. Donc là, on passe en revue quelque part les 60 principaux outils du marketing digital. Donc c'est un outil, c'est une boîte à outils qui va s'adresser plutôt à des gens qui démarrent dans le marketing digital ou par exemple à des patrons qui se disent tiens, on va parler, de CRO, je parlais de CRO, qu'est-ce que c'est? Et au moins ils ont un premier vernis qui leur permet de ne pas passer complètement stupide auprès de leurs équipes,
au moins
pour comprendre. Ouais. Voilà. Donc c'est, je dirais que c'est une boîte à outils qui permet d'avoir une première entrée sur tous les outils, enfin quasi tous les outils du marketing digital, et donc d'avoir ce premier vernis théorique sur ces outils ou d'avoir un premier point d'entrée. On peut se dire j'hésite entre tel ou tel outil, on peut se référer au bouquin pour se dire finalement celui-là est plus intéressant. Après, on ira voir d'autres ouvrages ou d'autres blogs plus spécialisés pour aller plus loin sur tel ou tel outil.
D'accord.
Et puis, dans les actualités toutes chaudes, donc on va sortir un troisième ouvrage, donc la boîte à outils de l'inbound marketing, donc toujours avec Philippe Gasteau et toujours chez Duno, où là, je prendrai un angle un petit peu différent de celui du premier ouvrage sur l'inbound marketing. Ça sera un angle beaucoup plus justement sur les outils. Mon premier ouvrage était très méthodologique, donc je m'attachais à expliquer ce que c'était l'inbound marketing, à expliquer comment le mettre en œuvre, et là, on va pouvoir compléter avec les bons outils pour justement être efficace durant la mise en œuvre.
Alors là, on a parlé beaucoup de marketing de contenu, de marketing digital. Alors on va essayer de prendre peut-être, je ne sais pas si c'est, on appelle plus de la hauteur, mais en tout cas, aller un peu plus dans la stratégie. Il n'y a pas très longtemps, tu as parlé sur ton blog de la fin du marketing des 4P, des 6P, des 12P, avec un nouveau mix, mais une nouvelle manière d'aborder la stratégie marketing. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Oui, alors complètement. C'est vrai que les 4P étaient le mix marketing d'avant le digital et ça a très 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 bien fonctionné. C'était un très bon mix. Depuis l'avènement du digital, ce mix n'a plus d'être. Alors c'est vrai qu'on a tenté de le sauver en lui rajoutant des P et puis finalement en transformant les P en des C. Bon, je trouve finalement que c'est des mix qui sont encore un peu trop technique et finalement qui colle plus véritablement à la réalité. Du coup, j'ai tenté en m'appuyant sur des travaux aussi d'universitaires, de profs et puis sur ma propre expérience, de dégager un nouveau mix. Alors c'est celui que j'appelle le mix des 4 M. Mm-hmm. Et pour moi, je me dis que finalement aujourd'hui, le marketing est finalement quadruple. T'as le marketing de la valeur, j'en parlais tout à l'heure. C'est arriver à transcender son produit. Il ne faut plus partir du principe que son produit fera tout. On voit très bien des entreprises comme un Apple qui a sorti son iPhone. Bon, on s'est dit, enfin moi quand j'ai vu cette innovation arriver, je me suis dit, mais ils en ont pour 15, 10, 15 ans. Ben non, au final, un an après, je crois que c'était HTC qui avait dégainé. Et un an et demi après, c'était Samsung. Donc on voit même qu'une superbe innovation ne protège plus. Les marchés sont mondialisés, il y a bien évidemment Internet qui donne aussi accès à énormément de produits, de comparatifs, etc. Donc finalement, même si on a un bon produit, on sait qu'il va être très très rapidement copié et que le produit n'arrive plus à faire la différence par rapport à d'autres challengers. Donc cette valeur, il va falloir qu'elle vienne transcender son offre de produits ou de services. Et donc c'est quand même un des piliers fondamentaux du marketing, c'est aux marketeurs de réfléchir à justement quelle pourrait être l'offre qu'on va pouvoir proposer à ses cibles. Deuxième marketing, c'est celui du risque. Alors ça reste finalement assez traditionnel, de tout temps, quand il y a acte d'achat, il y a forcément prise de risque.
Financier, soit du temps.
Oui, ou soit...
Même d'image.
Peut-être d'image, ça peut être psychologique. Je vais acheter un CRM, si je me plante sur le choix,
je peux être viré, par exemple.
Ouais. Voilà,
c'est pour ça que les gens disent, je vais prendre Salesforce ou Microsoft, parce que de toute façon, on ne me reprochera jamais d'avoir pris les leaders du marché.
Voilà. D'où l'importance du marketing du risque. On voit très bien, dans ces effets un peu moutonniers, on achète tout Salesforce parce qu'on sait qu'on ne prend pas de risque. Ouais. Or, aujourd'hui, franchement, Salesforce... Dans beaucoup de cas, elle n'est pas forcément l'outil le plus adapté et le meilleur. J'achète, je vois une tarte à la fraise, elle me paraît bonne, mais ça risque de me faire grossir. Voilà. Donc le risque est dans tout achat, que ce soit un gros achat en B2B ou un achat même spontané en B2C.
Je vais en grande surface, je vais acheter un yaourt. Ouais, mais est-ce que ma femme va aimer ça parce qu'elle a dit qu'elle n'aimait pas le chocolat ou attention ceci, cela. Voilà, risque, et finalement, on ne le prend pas.
Voilà, risque psychologique.
Il y a pas ma marque qui est dans le rayon, mais les enfants sont habitués à prendre ça. Ah ben non, mais je ne prends pas le risque de prendre un autre yaourt parce qu'ils ne vont peut-être pas aimer.
Voilà, un risque psychologique qui est bon. Et ça, c'est également au marketing. De travailler sur ces aspects-là et de tenter de faire diminuer autant que faire se peut cette prise de risque. Je citais Apple tout à l'heure comme exemple, très très bon exemple. Vous rentrez dans un Apple Store, vous êtes face à le Genius Bar qui matérialise finalement tout le service client qu'ils vont apporter. Si vous achetez un produit, vous voyez, vous avez le support qui est à votre disposition et de manière sympathique, on fait diminuer
quelqu'un pour vous aider s'il y a un dépannage.
Voilà. Alors on a éliminé les caisses, donc là aussi, marketing de la facilitation, je vais y venir, et on a mis en avant, on a matérialisé le support, un peu symboliquement, grâce à ces Genius Bar, dans cet esprit de diminution du risque. Donc effectivement, bonne transition. Ensuite, le marketing de la facilité. Et ça, c'est purement, autant les deux premiers, marketing de la valeur est plus vrai aujourd'hui avec la mondialisation, l'hyper-compétitivité Internet. Autant le marketing du risque est quelque chose qui existait avant le digital, qui n'est pas spécifique. Autant le marketing de la facilité, aujourd'hui, je le lis véritablement à Internet. Pourquoi on utilise le digital ? Il y a une raison fondamentale, c'est parce que ça nous rend finalement la vie beaucoup plus facile. J'utilise Google Maps parce que j'ai un rendez-vous et voilà, plutôt que d'aller déplier ma carte, je me laisse guider par Google Maps. Donc quelque part, la raison principale
de notre utilisation des canaux digitaux, c'est simplement de nous simplifier la vie. Pourquoi je vais faire du e-commerce, c'est pas spécialement très agréable, je vais acheter chez Amazon, c'est pas sexy, y a pas de, voilà, c'est pas un beau site, c'est pas... Malgré tout, je le fais parce que ça me simplifie la vie. Donc, l'entreprise aujourd'hui ne peut plus faire autrement que de travailler sur la simplification de son processus à la fois de vente, mais également de la vie de son client.
Ouais, les gens ne veulent plus une usine à gaz. On le voit même pour moi, je suis dans le domaine du logiciel, les gens ne veulent plus avoir un manuel. Ils ne veulent plus être formés pour utiliser un produit. Ils veulent, quand ils ont une démo d'un produit, ils disent « Mais attendez, c'est trop compliqué votre truc, j'en veux pas. »
Voilà, tout à fait. Donc la simplification est absolument phare, et là aussi, bah, le marketing a véritablement son rôle à jouer, hein, à la fois en simplifiant les process, en créant du contenu aussi qui va permettre à nos clients d'avoir une meilleure appréhension de par où il faut passer, bah, si c'est un logiciel, comment il faut démarrer, etc. etc. Donc tout ça, ouais, bah, effectivement, l'onboarding, hein, tout ça, ça fait partie du marketing de la simplicité, la facilitation, enfin, on l'appelle comme on veut, mais dans tous les cas, c'est absolument essentiel, et c'est quasi le cœur du marketing d'Amazon. Hein, Amazon s'est dit finalement...
Le one click purchase, voilà. La dispo tout de suite, le prime, tout ça.
Voilà. Je
me livrais le dimanche.
Livrer le dimanche, renvoyer ultra facilement, rembourser sans aucun problème. Donc ils ont mis au cœur de leur processus le marketing, de la facilitation, de la simplification. Et enfin, dernier marketing, et là aussi très très lié à Internet, c'est le marketing du moment. On ne peut plus aujourd'hui, hier on acceptait, moi j'ai commencé à bosser avant quelques années, juste avant Internet, on appelait un fournisseur, on acceptait qu'il nous rappelle, 3, 4, voire une semaine après, il n'y avait pas de souci, on ne lui en voulait pas, c'était dans les mœurs. Aujourd'hui, même cas de figure, si on n'est pas rappelé quasi dans les minutes qui suivent, c'est quasi un scandale. Donc on voit que le digital a complètement finalement bouleversé la notion de temps, et on n'accepte plus des processus qui sont très longs. C'est un peu lié aussi à la facilitation.
Bah, oh, oui.
De toute manière, les quatre M se parlent. Hein. Quand on va travailler la valeur.
Le directeur d'Alcatel-Lucent qui disait la durée de vie d'un lead sur Internet, B2B, c'était une heure.
Oui, oui.
Si dans les une heure, tu n'as pas rappelé le prospect,
oui.
Et ben, il ira voir ailleurs.
Bah, tout à fait. Donc c'est souvent effectivement le premier qui tire, et celui qui tire vite en plus qui va remporter l'affaire. Donc là aussi, je vois beaucoup trop d'entreprises, notamment B2B, qui sont des entreprises très très complexes. Leurs organisations sont des multinationales, etc. Mais malgré tout, et malheureusement, elles vont retranscrire cette complexité sur leur interface web. Or, c'est exactement l'inverse qu'il faudrait faire, c'est-à-dire mon interface web va me permettre de simplifier ma relation avec mes cibles. Donc surtout pas imposer ma complexité à mes clients, c'est au contraire faire disparaître ma complexité pour le client. C'est ce qu'on voit par exemple chez Google. Hein, Google, c'est une organisation qui est aujourd'hui mondialisée, excessivement complexe, des algorithmes... probablement les plus complexes au monde. Malgré tout, on est face à un seul champ et des réponses qui sont quasi immédiates. Donc on voit bien à la fois cette simplification et ce marketing du moment s'opérer à travers les interfaces de Google. Voilà, donc ça c'est une grille aujourd'hui, plus qu'un mix d'ailleurs. Pour moi c'est une grille, et on peut utiliser cette grille pour quelque part valider nos actions marketing. Si elles répondent à aucun des quatre critères, qu'a priori il y a un problème. Si elles répondent à au moins un critère, c'est pas mal. Si elles répondent à plusieurs critères, 2, 3, voire les 4, c'est absolument génial. Voilà. Et tout le reste, finalement, ce sont des outils.
D'accord. Alors, donc, si on peut faire un petit point de synthèse pour la fin, quelles sont en fait les choses à ne pas manquer te concernant? Et si on veut savoir plus sur toi, on voit quoi exactement?
Alors, me concernant, la grosse actualité, ça va être la sortie de mon ouvrage, donc la boîte à outils Inbound Marketing, donc aux éditions Duno, au mois d'octobre. Donc là, vous pouvez aller à la fois sur le site Duno, la FNAC ou Amazon, je pense qu'il va être en précommande d'ici la rentrée, hein, d'ici septembre. Après, vous pouvez me suivre sur mon blog, donc stéphanetruffem.com, et puis ou sur les médias sociaux, hein, donc sur LinkedIn bien évidemment, ou Twitter. Et puis mes actualités, ben je te l'avais dit en introduction, là, je réfléchis à bon, aujourd'hui, donc la campagne des entreprises plutôt dans la sphère B2B, donc des entreprises qui vont de la grosse PME au grand compte. En solo, j'ai des très très belles missions, je m'éclate bien. Je suis en train de réfléchir à savoir est-ce que je structure tout ça et je réouvre une petite agence très orientée sur du conseil, ou est-ce que je continue en solo. C'est un peu l'état de mes réflexions actuelles. Donc,
suivez-moi. On suivra ton blog et cette association et on verra les résultats à la fin.
Très bien.
Je te remercie et à bientôt.
À bientôt.